おかしいおかしい。
Dialogue entre Congolais avec Alain Rouge à la présentation.
Bonsoir. Dans un rapport publié le week-end dernier, l'ONG International Crisis Group dénonce l'enlisement de la démocratie en RDC. Cette organisation estime que le chef de l'État concentre tous les pouvoirs sur lui au détriment de toutes les autres institutions. Sur quoi se fonde cette ONG pour établir ce rapport? Voilà le thème de ce soir. Nos invités sont Ramazani Chadari, député national et premier vice-président de la Commission politique, administrative et judiciaire à l'Assemblée nationale, également secrétaire national chargé des questions électorales au sein du GPRD, le parti présidentiel, Thierry Virpoulon, directeur du projet Afrique centrale à International Project Group, et Félicien Kabamba, chercheur au Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. Vous êtes très nombreux à réagir, chers auditeurs, c'est le cas. D'Isaac de Bouillon, province orientale, qui dit « Je ne comprends pas cette ingérence des ONG internationales dans les affaires politiques congolaises. » Papi Mistima de Bukavu, Sud-Kivu, International Crisis Group a raison, il y a effectivement un gouvernement parallèle à la présidence de la République où l'on remarque des conseillers qui gouvernent plus que les ministres, des conseillers militaires plus puissants que les chefs d'état-major. Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
L'ONG International Crisis Group dénonce l'enlisement de la démocratie en République démocratique du Congo. Dans un rapport publié le week-end dernier, cette organisation estime que Kinshasa ne tient pas les promesses faites en 2006 en matière de démocratie. Pour Crisis Group, Joseph Kabila concentre tous les pouvoirs sur lui au détriment de toutes les autres institutions. Les grandes lignes de ce rapport avec vous, Kéline Côté.
Selon ce rapport de l'ICG, la consolidation de la démocratie en RDC est entravée dans presque toutes ses dimensions et le régime congolais reste fragile. En 2006, lorsque Joseph Kabila est devenu le premier président élu démocratiquement, la communauté internationale a considéré cette élection comme une avancée majeure du processus de paix. Aujourd'hui, toujours selon ce rapport, l'équilibre des pouvoirs est quasiment inexistant. Le cabinet présidentiel a pris l'ascendant sur le gouvernement, le parlement et le pouvoir judiciaire. Les libertés fondamentales sont fréquemment menacées et des réformes institutionnelles essentielles, la décentralisation et la réforme du secteur de la sécurité n'ont pas significativement progressé. Ce rapport dit aussi que Joseph Kabila a obtenu un mandat de 5 ans et s'est engagé à redresser un état défaillant et à combattre la corruption. Il a proposé un programme de reconstruction du Congo suivant 5 priorités stratégiques, les infrastructures, la santé, l'éducation, l'habitat et l'emploi. Il a promis de promouvoir la démocratisation, notamment en respectant l'état des droits et en organisant des élections locales. Presque 4 ans plus tard, le constat est néanmoins accablant, souligne le rapport. La présidence a entrepris d'étendre son pouvoir sur les autres branches de l'État et entretient des réseaux parallèles de prise de décision. Ce rapport conclut que poursuivre le projet démocratique est indispensable pour stabiliser le Congo à moyen et à long terme. Et parmi les recommandations, l'ICG propose entre autres la préparation immédiate des élections générales de 2011.
Merci, Kéline Côté. Thierry Virpoulon, bonsoir.
Oui, écoutez-vous, je t'entends.
Voilà, vous êtes directeur du projet Afrique centrale à International Crisis Group. La question principale que beaucoup de gens se posent, c'est celle de savoir sur quoi vous vous êtes basé pour dresser ce rapport. Il y a des auditeurs tels que Adrien ONGC qui est à Bruxelles qui dit l'ONG International. Thierry Virpoulon, apparemment nous avons des petits problèmes avec votre ligne. Si c'est possible de vous déplacer un tout petit peu, nous avons beaucoup de mal à vous capter ici. Je disais donc qu'il y a des auditeurs comme Adrien ONGC de Bruxelles qui dit « L'ONG International Crisis Group est dans la logique de l'exhibitionnisme qui caractérise les ONG au Congo. Je n'approuve pas son analyse qui me paraît fort subjective. En quoi le président de la République empêche-t-il les autres institutions de fonctionner? Peut-il le démontrer? Il y a un Parlement et Sénat dans ce pays, s'ils ne votent pas des lois, en quoi la présence est impliquée? Le grand problème du Congo, c'est l'homme politique Thierry Virpoulon.
Oui.
Est-ce que vous m'entendez, Thierry Virpoulon? Décidément, nous avons quelques soucis avec la ligne de Thierry Vercoulon, que la réalisation va chercher à rejoindre. Félicien Kabamba, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur au Centre d'études politiques à l'Université de Kinshasa. Un mot sur ce rapport, comment vous l'avez reçu?
Bon, disons que j'ai lu ce rapport très attentivement. C'est un rapport qui se fonde sur un certain nombre de faits. Et je crois qu'avant de critiquer ce rapport, il faut d'abord le lire, du début à la fin, et relever tous les faits que ce rapport contient, et essayer de parcourir les analyses auxquelles ils sont arrivés. Cela permet, à la fin, de voir si les conclusions qui sont tirées sont valides. Et moi, je l'ai lu, parce que je l'ai lu, ça fait maintenant quelques jours. Je l'ai parcouru du début jusqu'à la fin, et j'ai vu l'analyse auquel ils sont arrivés, à laquelle ils sont arrivés. Et il y a des bonnes choses dans cette analyse, donc dans ce document qui nous est présenté. Il y a également un grand effort au niveau de l'archivage et disons de la collecte des données. C'est un rapport qui a beaucoup d'informations. C'est vrai qu'à la fin, ils arrivent à une conclusion qu'en fait, la démocratie est en péril. Et moi, je crois que en tant que Congolais et en tant que intellectuel, il y a lieu de réfléchir assez attentivement sur les conclusions auxquelles ce rapport est analysé, disons, est arrivé plutôt que de sauter directement sur ce qui est très frappant. Alors je crois qu'il faut voir ce rapport avec beaucoup de recul, essayer de le lire attentivement, et c'est de cette manière-là qu'on peut construire.
Et à vous entendre parler, vous le disiez tout à l'heure, qu'il y a des bonnes choses dans ce rapport. De votre point de vue d'analyste politique, quelles sont ces bonnes choses?
Bon, disons, quand je parle de bonnes choses, c'est-à-dire au niveau de l'analyse, il y a un effort considérable qui a été fait au niveau des faits. Et donc, c'est un rapport qui nous présente énormément d'informations. C'est peut-être là qu'il est riche. Et moi, par exemple, en lisant, j'apprends énormément de choses, aussi bien au niveau de l'analyse de l'architecture institutionnelle, au niveau de tout ce qui s'est passé dans la préparation des élections, les contraintes, et ainsi que toutes les élucubrations autour de l'organisation des élections locales et des élections générales, les découpages territoriaux, la décentralisation. Et donc, vous avez toutes ces notions, ce sont toutes ces questions qui sont abordées sous l'angle essentiellement congolais et qui abordent toutes ces questions en se basant sur des faits. Et donc, je crois là qu'il faut peut-être partir des accusations une après l'autre, plutôt que des accusations globales sur le rapport.
Merci Félicien Kabamba. La réalisation me signale que Thierry Vercoulon est en ligne. Monsieur Vercoulon, vous êtes en ligne, vous m'entendez?
Oui, je vous entends, il était dit tout à l'heure.
Voilà, nous vous captons un peu difficilement, j'espère que la qualité de votre ligne va s'améliorer. Alors, dites-nous, sur quels éléments se fonde International Crisis Group pour dresser ce rapport?
International Crisis Group se fonde sur un texte qui est très bon, puisque c'est l'institution de la publique. Mais, en fait, pour élaborer ce rapport, on a pris le texte de la Constitution et on a fait une sorte d'état des lieux. L'institution a été adoptée en 2006 et donc 4 ans plus tard, on a
Thierry Vercoulon
qui avait été accompli et qui avait été accompli.
Monsieur Vercoulon, excusez-moi, la qualité de votre ligne n'est pas toujours très bonne. Si c'est possible de faire un petit déplacement de l'endroit où vous êtes, si vous êtes dans une salle, veuillez sortir. Oui, et aussi la réalisation va essayer de vous retrouver pour essayer d'arranger ça. Ramazani Chadari, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avec nous dans ce studio, vous êtes député national, secrétaire national chargé des questions électorales au sein du PPRD, le parti présidentiel et premier vice-président de la commission politique, administrative et judiciaire à l'Assemblée nationale. Comment vous avez reçu ce rapport où Crisis Group dit que les promesses faites en 2006, les promesses de démocratie faites en 2006 par le président Kabila n'ont pas été réalisées, et Crisis Group dénonce également la concentration du pouvoir par le président de la République au détriment de toutes les autres institutions?
Bon, merci beaucoup pour la question. Vous savez que moi, je n'ai pas lu le rapport de l'ONG International Crisis Group. Vous m'avez pris à pied levé, mais en suivant ce que Thierry dit et en suivant également ce que le compatriote Félicien Kabamba dit, je peux donner un certain nombre de considérations sur ce rapport-là. L'état des lieux, on parle de l'état des lieux après 4 ans, M. Thierry, avec son ONG, il veut nous faire croire qu'il y a eu des promesses démocratiques qui n'ont pas été réalisées et qu'il y a la concentration de pouvoir entre les mains du chef de l'État par rapport à d'autres institutions. Je ne sais pas s'il est au Congo, peut-être il nous parle de la France ou bien dans notre pays, il ne sait pas exactement ce qui se passe dans ce pays. D'abord, en ce qui concerne les promesses démocratiques. La démocratie ne signifie pas seulement l'organisation des élections. La démocratie signifie beaucoup de choses. La liberté d'expression. Je ne sais pas si M. Thierry sait qu'au Congo, il y a plus de 50 chaînes de télévision, il y a beaucoup de radios qui donnent des critiques au gouvernement, qui donnent des critiques au fonctionnement des institutions, et ça marche normalement. Donc la liberté d'expression est là. Et la démocratie signifie également le respect des lois, le respect des règlements du pays, le respect des institutions, la liberté d'association, la liberté des partis politiques. Nous avons plus de 250 partis politiques au Congo. Le pluralisme politique est reconnu. Il n'y a pas un seul Congolais qui a tenté de créer un parti politique et qui a été obstrué par les pouvoirs publics. Là, Thierry n'est pas au courant de tout ce qui se passe dans le pays. La liberté d'association, tout ça, c'est la démocratie, le respect des lois, je l'ai dit. Les élections ont été organisées en 2006, les élections générales, c'est-à-dire l'élection du président de la République et les élections législatives et provinciales. Et après, on a dit qu'il y aura, la loi a prévu qu'il y aura des élections locales, municipales et urbaines. Mais nous avons des contraintes, je ne sais pas si là c'est des contraintes notamment liées au financement à ces élections, des contraintes notamment liées également à la révision du fichier électoral, des contraintes également liées à toute l'organisation des élections qui sont les plus complexes par rapport à celles qu'on a organisées. Vous avez suivi, il n'y a pas longtemps, je crois, le 11 de ce mois à Goma, le vice-premier ministre de la République, le professeur Lumanu, a annoncé qu'il n'y aura pas, à un seul moment, un état d'exception dans ce pays. Il y aura bel et bien élection dans ce pays, mais il faut préparer ces élections, il ne faut pas les marquer.
Voilà, honorable Ramazan Chabari, j'ai le résumé du rapport moi dans ce studio, je vais vous lire un extrait. Aujourd'hui, l'équilibre des pouvoirs est quasiment inexistant, le cabinet présidentiel a pris l'ascendant sur le gouvernement, le parlement et le pouvoir judiciaire, les libertés fondamentales sont fréquemment menacées et des réformes institutionnelles essentielles, notamment la décentralisation et la réforme du secteur de la sécurité, n'ont pas significativement progressé. Qu'est-ce que vous en dites?
C'est faux. C'est pas exact. Il n'y a pas, les équilibres n'ont pas été rompus. Nous avons les trois pouvoirs classiques qui fonctionnent normalement. Notamment le Parlement, qui a ici deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat, qui ont pour mission de voter les lois et de contrôler le gouvernement. En ce qui concerne le vote de loi, vous savez que nous sommes un Parlement qui fait son travail de manière extraordinaire. Peut-être nous avons quelques faiblesses au niveau du contrôle du gouvernement. Ça, c'est parce qu'il faut être correct. En ce qui concerne la décentralisation, le Parlement a déjà voté des réformes sur la décentralisation. Le chef de l'État a promulgué tout cela-là. Et maintenant, pour que la décentralisation soit effectivement d'application, il faut qu'il y ait des organes. Il faut qu'il y ait des institutions élues au niveau de la base. Ce sont les conseils des secteurs, les conseils de sécurité, les conseils municipaux et les conseils urbains. C'est ça, donc, les socles de la décentralisation.
Donc, pour vous, ça va bien.
Ça va, ça marche très bien. Mais je ne dis pas que nous avons atteint de manière rationnelle ce qu'on a prévu. Mais nous sommes en train d'évoluer de façon très satisfaisante.
Voilà, la réalisation me signale que nous avons de nouveau Thierry Vercoulon en ligne. Monsieur Vercoulon, vous nous entendez? Thierry Vercoulon, vous êtes en ligne? Voilà, décidément, ça ne marche toujours pas. Félicien Kabamba, vous venez de suivre Ramazani Shadari, ainsi que quelques extraits de ce rapport. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce niveau?
Bon, disons que ce qu'il vient de déclarer, bon, il parle peut-être en tant que politicien, moi je n'ai pas de couleur politique. Mais ce que je peux dire concernant les déclarations qu'il vient de faire, c'est que la démocratie dans notre pays, à l'heure actuelle, connaît quand même beaucoup de problèmes. L'équilibre de pouvoir dont on vient de parler, je crois qu'il faut regarder ça avec beaucoup de recul. Parce que quand on parle de la démocratie, il faut voir qu'il y a eu un projet de démocratie qui a été initié avec la Constitution de 2006. Et aujourd'hui, la question qui est posée, c'est l'évaluation du chemin déjà parcouru. Quand on essaye de voir les différents chantiers qui étaient ouverts avec cette constitution, on peut prendre par exemple le chantier de la décentralisation qu'il venait d'aborder, eh bien, on se rend compte, et d'ailleurs lui-même le reconnaît, que les élections qui étaient prévues, les élections à la base, ces élections, on a eu plusieurs promesses du gouvernement sans que le gouvernement tienne parole. Et donc, toutes ces faits-là sont, si il lit le rapport, il va trouver qu'on évoque l'évolution des promesses tenues par le gouvernement jusqu'à aujourd'hui. Et donc, du coup, aujourd'hui, on nous ramène à 2011, et le rapport vous dit qu'en fait, selon le calendrier, il est quasiment difficile que d'ici 2011, on tienne toutes ces élections. Et moi, je crois qu'il faudrait peut-être qu'il lise un peu le rapport et il pourra avoir des éléments suffisants pour le critiquer. Et je crois que sur cette base-là, il est possible de parler. Moi, je l'ai lu et donc je peux parler avec un peu de recul. Vous regardez le chantier de la décentralisation, vous allez vous rendre compte qu'en fait, on a comme l'impression que dans les faits, les discours décentralisateurs qui a été développé par l'État congolais a été juste destiné à calmer les ardeurs des mouvements d'opposition et en fait d'obtenir le rétablissement de la paix sociale. Mais était-ce réellement l'objectif réel du pouvoir public congolais? C'est la question. Cette question mérite d'être posée au regard de la valeur de réforme décentralisatrice sur l'aspect de la démocratie locale et une sorte d'indigence de cette dernière dans sa mise en œuvre. Donc on peut dire que la décentralisation aujourd'hui semble avoir été instrumentalisée par le pouvoir public pour, d'une part, obtenir la paix civile et, d'autre part, retrouver la confiance de bailleurs de fonds internationaux. Mais nous ne voyons pas, en réalité, se mettre en place une véritable décentralisation telle qu'elle a été définie par la Constitution. Moi, je ne vois pas encore des choses. Vous prenez, par exemple, le projet phare de la décentralisation de notre pays qui est le découpage. Aujourd'hui, le gouvernement n'a mis en place aucun plan, aucun programme, il y a 3 ans, comme on nous dit, que le gouvernement nous dise voilà le plan, et selon le plan sur 3 ans, je réalisais ceci, je réalisais cela. Et aujourd'hui, on veut tirer la conclusion que ce projet a été mauvais. Ah non, je ne crois pas qu'on peut directement dire que tout ce qui a été fait par le gouvernement est bon, et que le gouvernement est sur une bonne voie.
Merci.
Il faudrait là reconnaître ce que le gouvernement a fait de bon et ce qui n'a pas fait de bon. Donc, dire que le gouvernement a tout bien fait, ce n'est pas vrai. Il y a des choses que le gouvernement a faites qui peuvent être bonnes, mais il y a beaucoup de failles dans ce que le gouvernement a fait.
Merci Félicien Kabamba, honorable Chadari. Je vais vous dire un autre extrait hein, de ce rapport. Les prérogatives du Premier ministre sont rognées et son autorité affaiblie. De très nombreuses décisions relevant de la primature sont en fait prises à la présidence. Des conseillers du cabinet du président Kabila, sans mandat officiel, imposent leurs décisions aux ministres dans leur champ de compétence. La présidence a entrepris d'étendre son pouvoir sur les autres branches de l'État et entretient des réseaux parallèles de prise de décision.
Bon, je dois d'abord revenir sur ce que notre compatriote Félicien a dit. J'ai bien dit que pour qu'il y ait application de la décentralisation, il faut en principe qu'il y ait élection locale, municipale et urbaine. J'insiste. Pour qu'il y ait des organes délibérants et des institutions exécutives qui vont travailler en contrepoids et assurer ici la démocratie et le développement à la base. Ces élections n'ont pas encore eu lieu. Ce n'est pas de la mauvaise foi du gouvernement. Je parlais des multiples contraintes liées à l'organisation de ces joutes électorales. J'ai insisté sur le plan financier. Pour organiser les élections générales que nous avons connues en 2006, vous vous souvenez très bien avec moi que nous avons eu l'apport important des bailleurs internationaux.
Alors, ces précisions étant données, revenons au rapport. Grises Group parle de ce gouvernement parallèle qui existe au niveau de la présidence.
Je vais en arriver.
Allons-y.
Parce que lui, quand il parle de démocratie, il a insisté sur la décentralisation. Mais les lois ont été votées quand on dit que le gouvernement n'a rien fait et le Parlement n'a rien fait. Le Parlement a voté, n'est-ce pas, la loi sur la décentralisation. Il y en a trois d'ailleurs, les lois sur la décentralisation. Ce sont des projets qui sont venus du gouvernement. Donc le gouvernement a fait son travail, le Parlement aussi le sien, et le Pénat a promulgué les lois sur la décentralisation. Aujourd'hui, pour aller aux élections, si nous tenons compte des réalités légales, nous avons au pays 5371 groupements. Si les groupements sont retenus comme les circonscriptions électorales pour élire les conseils de secteur et de chefferie, vous voyez ce que ça va demander dans l'organisation matérielle.
Voilà, donc,
il y aura combien de bureaux?
Nous retenons que là, ce sont les contraintes dont vous avez parlé. Alors, et quant à ce gouvernement parallèle au niveau de la présidence,
les élections auront bel et bien lieu, le ministre l'a dit, mais quand vous parlez maintenant du gouvernement parallèle,
de ces conseillers qui sont plus puissants
que
les ministres.
Les conseillers qui sont plus puissants que les ministres, vous avez cité beaucoup de choses là-bas, mais sans peur que tel conseiller a fait ceci à la place d'un ministre.
Le rapport cite l'honorable Katumba Mwangi, hein, ce n'est pas un secret, le rapport le cite.
L'honorable Katumba Mwangi, vous l'appelez honorable, il n'est pas conseiller, il est député national comme moi, il siège à l'Assemblée nationale, c'est de l'amalgame, il est député national, il siège comme député. Il décide comme député à l'hémicycle. Il n'est pas conseiller. Et les gens de l'État, on ne lui a pas intérêt d'avoir des conseillers. Il a des conseillers. C'est constitutionnel, c'est légal. Quand vous citez cet honorable-là, c'est un député, il n'est pas conseiller du chef de l'État. Donc je crois qu'il n'y a pas suffisamment d'exemples pour étayer qu'il y a un gouvernement parallèle au niveau de la présidence de la République. Ce qui s'est passé en Bandaka. Vous avez vu les chefs de l'État, vous avez vu le Premier ministre, avec des ministres, vous avez vu des conseillers.
Et vous confirmez que le Premier ministre a tous ses pouvoirs.
Moi, je vous dis, est-ce que vous avez vu des conseillers du chef de l'État avec le président en Bandaka? Il y avait le Premier ministre, le ministre de la Défense, il y avait le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Communication et autres. Vous avez vu des conseillers? Non. Là, il ne faut pas exagérer. Et le président, il a des pouvoirs constitutionnels. Ce n'est pas un président qui doit inaugurer les chrysanthèmes. Il a des prérogatives qui lui sont reconnues par la Constitution. Voilà.
Voilà. Nous allons prendre la première vague des réactions des auditeurs. Fossa Mumbiri de Siwanja en Nord Kivu, le pouvoir semble se concentrer à la présidence de la République à cause de l'immobilisme du gouvernement Mozito. Ibrahim de Kisangani en province orientale, International Crisis Group n'a pas tort car le président doit répondre aux aspirations de l'AMP, une coalition qu'il a menée au pouvoir. Magui Fouakumputu, je confirme les propos du CG sur la RDC puisque dans notre pays règnent des arrestations arbitraires des prisonniers d'opinion et l'impunité. On remarque aussi l'existence des gouvernements parallèles, c'est-à-dire le président Kabila et ses conseillers prennent des décisions au nom de l'État ou de la nation sans s'en référer au gouvernement et au Parlement. Gustave Kakulisefo de Kalimio-Katanga, quels sont les éléments dont dispose ICG pour prouver que le président de la République centralise le pouvoir? Johnny Bafouadena de Bounia en province orientale, les ONG internationales ne peuvent-elles pas nous laisser un temps de répit en ce moment où nous préférons réfléchir sur la révision constitutionnelle que proposent les acteurs politiques? De Kindou Augustin dit, je crois qu'il n'y a rien de neuf dans le rapport, dans ce rapport, car cette ONG est revenue sur ce que l'opposition répète au quotidien, mais je prie nos autorités de faire un bilan sans complaisance de leur gouvernance depuis 2006. Félicien Kabamba, juste un mot, un commentaire par rapport à ces quelques réactions des auditeurs.
Oui, disons que je vais revenir ici sur la question du gouvernement parallèle. En fait, je crois qu'il faudrait savoir que le gouvernement, la notion du gouvernement parallèle, ce n'est pas une notion congolaise. Le gouvernement parallèle existe même dans les systèmes de démocratie occidentale. Et donc, le problème, c'est que le gouvernement parallèle ne peut pas se substituer au gouvernement officiel et ne peut pas prendre une très très grande importance par rapport au, donc au gouvernement officiel. On peut y avoir 2, 3, 4 gouvernements parallèles, il n'y a pas de problème. Ça dépend de la manière dont le système a été conçu et de la manière dont il fonctionne. Si on a besoin de ces différents gouvernements parallèles pour apporter l'eau au moulin, moi je crois que dans les systèmes politiques tels que nous l'enseignons et nous l'avions étudié, ce sont des pratiques qui sont généralement courantes. Le problème, c'est quand le gouvernement parallèle prend le dessus sur le gouvernement officiel. En ce moment-là, c'est un dysfonctionnement qu'il faut relever. Et donc, je crois que l'optique abordée au niveau du rapport Crisis Group, c'est que le gouvernement parallèle, qui est, si vous voulez, à la présidence de la République, il y en a 2, 3 ou 4, je ne sais pas le nombre, eh bien, il semble prendre plus d'importance que le gouvernement officiel qui est connu et qui est établi. Et donc, je voudrais là revenir sur ce que c'est l'honorable venait de dire, pour dire que il n'est pas dit que quelqu'un du gouvernement parallèle doit nécessairement être un officiel, doit nécessairement être un conseiller. Ça peut être quelqu'un qui n'a aucune fonction officielle, mais qui est très très important, en fait, aux côtés du pouvoir en place.
Merci.
Ça peut ne pas être...
Oui, alors... Je vous en prie, concluez à ce niveau.
Oui, donc voilà, je vous l'ai dit ça, mais bon, voilà. Donc, il y a là cette notion importante à mettre en exergue quand on parle du gouvernement parallèle. Je voudrais vraiment pas qu'on parle toujours des personnes qui jouent les rôles officiels et des rôles connus, mais il y a également des personnalités très importantes qui influencent les grandes décisions, me semble. D'avoir des positions officielles.
Merci, honorable Sadari. Il y a Matata Sylvestre de Belgique, de Bruxelles en Belgique, qui dit « L'ONG International Crisis Group a parfaitement raison. Il suffit de lire la Constitution d'un côté et voir ce que fait le chef de l'État de l'autre pour remarquer cela. L'existence d'un gouvernement parallèle autour du chef de l'État et par lequel il exerce un pouvoir dictatorial discret en est la preuve tangible. » Une brève réaction.
Pouvoir dictatorial. Ça, notre compatriote qui vit en Belgique, je crois qu'il est de l'opposition. Il n'est pas au Congo, il ne connaît pas les réalités, il ne sait pas. Plus démocrate que Kabila, il n'y en a pas pour le moment au Congo, il n'y en a pas. Je crois que c'est une affirmation gratuite. Le président de la République, il a des prérogatives. C'est lui qui veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le bon fonctionnement des institutions et des pouvoirs publics. Quand on dit qu'il est dictateur, et non, je crois que ce monsieur, c'est un discours qui ne peut pas être pris en compte pour le moment au Congo, et tous les Congolais sont conscients de ça. Au niveau des provinces, est-ce que vous voyez le chef de l'État intervenir sur les provinces? Il y a les assemblées qui fonctionnent, il y a les gouvernements provinciaux qui fonctionnent,
et vous êtes toujours sous l'embolisme de l'AMP.
Oui, l'AMP, parce que nous sommes organisés. On est organisés, on n'est pas dans la jungle, on est organisés du sommet jusqu'à la base. Donc je crois que l'intervention de notre compatriote, auditeur, Il est un peu à côté, je peux m'excuser.
Merci, honorable. La réalisation des signaux que nous avons beaucoup de difficultés à joindre Thierry Vercoulon, directeur du projet Afrique Centrale à International Crisis Group, mais je vous propose d'écouter ces explications de Guillaume Lacaille, analyste du Congo à Crisis Group, qui fait un commentaire sur ce rapport.
Depuis les élections de 2006, on a enregistré beaucoup de retard dans la mise en place des réformes institutionnelles qui étaient prévues par la Constitution. Et on a vu que cette vision démocratique, qui avait été finalement le consensus congolais qui avait abouti à la Constitution, cette vision démocratique est un peu en train d'être oubliée. Nous nous étonnons du fait que le Premier ministre, qui est censé être le chef du gouvernement, se retrouve avec un pouvoir largement limité. Et d'une certaine manière, il est inquiétant de voir que des conseillers à la présidence arrivent à avoir davantage de pouvoir que des ministres en exercice. Il est par exemple surprenant de voir que toutes les affaires de sécurité dans l'Est ont été reprises par des conseillers de la présidence plutôt que par le ministère de la Défense ou le ministère des Affaires étrangères. Donc il est presque inquiétant de voir que tout le processus des décisions politiques qui était prévu par la Constitution de 2006 n'est pas le processus qui est appliqué, puisque à l'heure actuelle, c'est plutôt la présidence et les conseillers du président Kabila qui prennent des décisions à la place des ministres et du Premier ministre. Et si la démocratie n'est pas consolidée en 2010, alors on aura un vrai problème.
Réagissant à cette affaire, Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais, déclare que les ONG vivent de l'image d'un État congolais déliquescent. Pour lui, le gouvernement actuel a fait beaucoup d'avancées en matière de démocratie. On écoute Lambert Mende au micro d'Emmanuel Mbanda.
Oh, nous sommes habitués à ces saillies de cette galaxie de gens qui vivent au crochet d'un État congolais déliquescent, au point qu'ils sont assis sur une rente de situation parce qu'ils se substituent à l'État, on leur commande des études, vous savez, pour comment aider ces pauvres Congolais. Ils n'ont que faire de notre dignité, ils veulent bien fermer les yeux sur les efforts que nous faisons et qui ont porté depuis pour devenir un pays normal, libre à eux.
Est-ce que vous ne pensez pas que le principe de séparation de pouvoir est menacé à l'ABC?
En quoi le principe de la séparation des pouvoirs serait-il menacé parce que des personnes qui sont attitrées par la Constitution à initier une révision constitutionnelle proposent que l'on puisse étudier une révision constitutionnelle?
Vous avez compris, c'était un dossier réalisé par José Deschartes Menga. Félicien Kabamba, comment vous interprétez la réaction du ministre Mende?
Non, c'est une réaction bien officielle du gouvernement. Et donc, quand un officiel du gouvernement parle, il faudra qu'il trouve des justifications et une explication adaptée à l'action de son gouvernement. Et donc, c'est une réaction qui ne me surprend pas. Par contre, je crois qu'il y a, lieu de faire une réflexion profonde sur le chemin déjà parcouru, sur les efforts conjugués par le gouvernement et sur les failles constatées dans l'action gouvernementale. Peut-être qu'il y a là une grosse erreur que commettent la plupart de nos compatriotes pour dire que tout va bien. Et donc, de ne pas faire une critique, une autocritique de notre gouvernement pour aider le gouvernement à comprendre ce qui va et ce qui ne va pas. Alors, à partir du moment où on dit que tout va bien, là, je peux vous dire qu'on induit le gouvernement en erreur.
Voilà, il y a Blanchard Luana de Mbandaka à l'Équateur qui dit « Nos autorités doivent se rappeler du discours du président Obama lors de son discours tenu au Ghana quand il a dit « La démocratie n'a pas besoin d'hommes forts mais plutôt des institutions fortes et de la bonne gouvernance pour construire un état de droit. Chercher à concentrer tous les pouvoirs entre les mains d'une seule personne n'est que la dérive dictatoriale pour s'éterniser au pouvoir, Félicien Kabamba. »
Oui, bon, c'est une bonne question. Bon, disons que la dérive dictatoriale dont on parle dans le rapport, c'est une dérive qu'il faudra un tout petit peu nuancer. Parce qu'en fait, il faut dire que, en lisant le rapport, c'est peut-être là la faiblesse du rapport, c'est que le rapport va dans une seule direction. Et donc, le rapport ne révèle pas les efforts conjugués par le gouvernement, même si ces efforts sont mineurs, eh bien, le rapport présente juste ce qui ne va pas. Alors que, généralement, quand on fait un rapport, on parle aussi bien de ce qui va et de ce qui ne va pas. Mais il y a là une direction unique dans laquelle se dirige le rapport, et c'est peut-être là sa faiblesse. Mais le rapport contient un certain nombre d'éléments, qui sont des éléments, à mon sens, puisés dans les faits, et des éléments qu'il faut capitaliser parce que tout ce qui est dit dans les rapports n'est pas faux. Par contre, le rapport contient beaucoup, beaucoup d'informations.
Honorable Chadari, un autre extrait du rapport, Joseph Kabila examine la possibilité de modifier la Constitution sous le prétexte de résoudre les difficultés rencontrées dans la mise en place de la décentralisation.
Mise en place de la décentralisation.
Alors aujourd'hui, la révision constitutionnelle, c'est un sujet d'actualité.
C'est un sujet d'actualité.
Et l'article 220 sur le
et la Constitution. La révision de la Constitution n'est pas interdite par la Constitution. Et la Constitution elle-même autorise de la réviser. C'est constitutionnel. Si un député mandaté par la population, qui siège à l'Assemblée ou au Sénat, trouve qu'il y a des failles dans le fonctionnement des institutions. Parce que le rapport, là, indique qu'il y a des failles dans le fonctionnement. Il propose, il vient avec une proposition de révision constitutionnelle. Est-ce un problème? Nous avons dit qu'à la fin du mois de mars, nous devons déjà installer toutes les 26 provinces. Est-ce que nous avons été capables de le faire?
L'article 220 aurait-elle aussi
de faire? Quand Félicien Karamba dit que tout n'a pas été fait, mais quelque chose a déjà été fait. Mais dans 4 ans, on ne peut pas tout faire. Dans 4 ans, on ne peut pas tout faire. Nous avons vu la Belgique, ils ont fait, je crois, 150 jours sans gouvernement. Après les élections, 150 jours sans gouvernement. Si c'était le Congo, on allait crier. Donc la révision constitutionnelle, ce n'est pas un tabou.
Et l'article 220, dans son mandat du chef de l'État.
Non, le chef de l'État a un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois.
Mais aujourd'hui, on réfléchit déjà sur cet article.
Il réfléchit sur ça. Moi, je vous dis, il y a des experts qui réfléchissent, de l'opposition, qui réfléchissent pour réduire
de la majorité.
Le mandat du chef de l'État à 4 ans. Je vous informe, des experts de l'opposition qui réfléchissent pour réduire le mandat du chef de l'État à 4 ans comme aux États-Unis. Vous trouvez ça normal?
Mais la réunion interinstitutionnelle, ce sont des experts de l'opposition.
Vous la réunion interinstitutionnelle qui a eu le rapport des uns et des autres a dit, nous allons également discuter sur de la question de la révision du mandat du chef de l'État. Quand les uns proposent 4 ans et la Constitution dit 5 ans, on ne peut pas en parler.
Il faut parler.
Donc, cette révision aura bel et bien lieu. Nous allons revoir certains articles de la Constitution. On va les revoir. Et ça ne pose pas un problème. Ce n'est pas anticonstitutionnel, c'est constitutionnel. Ce qui est interdit à l'article 220, on ne va pas toucher. Mais pourquoi les gens s'agitent? Moi, je suis du PFD.
Mais pourquoi réfléchir à un article qui est d'ores et déjà verrouillé?
L'article est déjà verrouillé. Mais pourquoi les autres veulent qu'on réduise à 4 ans? Pourquoi ils veulent qu'on dise à 4 ans?
C'est vous qui les
J'ai même des documents. On dit, on veut réduire le mandat à 4 ans. On dit 5 ans, c'est trop. Vous trouvez ça normal?
En tout cas, ça n'a pas été publié.
Voilà, je suis les réflexions. Je suis le premier
à vous donner cette information. L'ont été.
Ouais.
Voilà, Félicien Kabamba, il y a l'honorable Jacques Bakambeshesha, député national élu de Kipushio-Katanga, qui dit « L'analyse de l'ONG International Crisis Group n'est pas correcte. Le chef de l'État ne concentre pas tous les pouvoirs. C'est plutôt la faiblesse des autres institutions caractérisées par le manque de courage des personnes et personnalités incapables de s'assumer comme homme d'État, que l'on arrive à cette situation. »
Bon, disons que ça, c'est son point de vue. Il y a un point de vue qui est exprimé également par l'honorable qui venait de parler.
L'honorable Chadari.
C'est l'honorable
Chadari.
Chadari, voilà. Il y a également le point de vue exprimé au niveau du rapport, le rapport qui enfonce en fait cette question. Mais ce qu'il faut peut-être mettre au cœur de la question de l'exercice démocratique dans notre pays, c'est que, et cela est relevé d'ailleurs dans le rapport, c'est que, au départ, on ne peut pas comprendre comment, dans les provinces non contrôlées par la majorité, eh bien, ces provinces ont tout simplement basculé sous le contrôle de la majorité actuelle. C'est entre autres, et j'ai lu là dans le rapport, vous avez par exemple la province du Kassai occidental, vous avez, je crois qu'il y en a 3, et bien toutes ces provinces, toutes ces 3 provinces qui, théoriquement, eh bien, ont vu l'opposition les contrôler, c'est bien, après les élections, elles ont basculé dans les camps présidentiels. Et le rapport mentionne qu'en fait, ce basculement n'est peut-être dû que à, si vous voulez, l'intervention à la mise en, en œuvre de moyens financiers par le pouvoir en place pour museler l'opposition et donc ne pas permettre à l'opposition d'avoir le contrôle de certaines provinces. Et le rapport fustige ces pratiques pour dire que ça ne peut pas avancer la démocratie dans notre pays. Et moi je crois que tout ce qui est dit n'est pas nécessairement mauvais, tout ce qui est dit n'est pas nécessairement faux. Il y a des choses qui sont dites que nous-mêmes Congolais nous connaissons. Il y a également des choses sur lesquelles il faut se poser des questions, merci. Même si on est de la majorité.
Merci, honorable Sadari. Un autre extrait du rapport. L'exécutif conduit une campagne anticorruption orientée politiquement qui met en cause l'indépendance de la justice. Le régime utilise les moyens financiers et les outils de coercition à sa disposition pour éliminer les contestations et pour réduire les insurrections locales qui éclatent depuis 2006.
Vous voulez que je dise quoi? Je crois que c'est clair. Le pouvoir en place applique ce qu'on a dit, le principe de tolérance zéro. Vous êtes corrompu, corrupteur, votre place est connue. Il n'y a pas de contestation. Quel genre de contestation? Vous lisez là-bas. Contestation sur
Sur les insurrections locales qui éclatent depuis 2006.
Il y a des institutions locales, à quel niveau?
Bon, je comprends que vous n'avez pas lu le rapport.
Non, mais donc, ça dit que le rapport n'est pas clair. Quand il n'y a pas des institutions, lesquelles? Il faut les citer. Ce rapport n'est pas clair. C'est un projet d'intention tout simplement.
Parce que vous ne l'avez pas lu entièrement, voilà. Honorable Sadari, voilà. Mais il y a une question précise.
Insurrection locale, à quel niveau?
Honorable Sadari, voilà. Vous n'avez pas lu tout le rapport. Peut-être ouais. Qu'il y a des éléments qui vous échappent. Il faudrait peut-être avoir l'honnêteté de le reconnaître.
Ouais.
Mais je vous ai posé une question précise. Mm. On parle ici d'une campagne anticorruption orientée politiquement.
Mm.
Qui met en cause l'indépendance de la justice.
C'est pas orienté.
La politisation de la tolérance zéro.
C'est politisé à quel niveau? Comment c'est politisé? Lorsque vous avez un problème, vous dites que vous avez été corrompu, ou vous êtes corrupteur, la loi va s'appliquer sur vous. Il faut donner des exemples. C'est pourquoi j'ai dit, ce rapport-là, c'est un rapport global, dit déjà entendu, ce que l'opposition raconte. Bon, pour des raisons que nous connaissons, cette ONG aussi récupère ces éléments pour avoir un peu de moyens, sans preuve à tout ce qui est en train de dire dans le rapport. Il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve.
Et vous pensez que ce rapport ne pourrait en aucun cas vous aider à améliorer certaines choses?
Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Vous m'avez appelé aujourd'hui, quelques minutes avant l'émission. Je suis venu. Et je vous dis que je n'ai pas lu le rapport. Je suis venu répondre aux questions. Je n'ai pas encore ce rapport-là. Quand je l'aurai, je veux le lire. S'il y a des passages qui vont nous aider, on va les prendre. Mais je crois que globalement, c'est un rapport qui cadre avec une certaine catégorie de contestation que nous connaissons. Et nous ne sommes pas surpris. C'est un procès d'intention. Il n'y a pas de dictature au niveau de la présidence. Il n'y a pas d'ingérence du président de la République ou de ses conseillers au niveau du gouvernement. Là, je ne pense pas que ce rapport ait été correct.
Voilà, Camille de Toronto au Canada dit « Le président Kabila concentre tous les pouvoirs, cela ne devrait étonner personne car on dirait que tout a été fait pour avoir les autres institutions faibles et insignifiantes. Comme ça, les gens auprès du président auront le loisir de parallèlement occuper toutes les prérogatives de ces institutions. Félicien Kabamba, je vous demande un mot en guise de conclusion parce que l'émission va toucher à sa fin.
Oui, bon, disons que il serait peut-être prudent de demander à l'honorable de lire le rapport. C'est un rapport qui est très documenté. Il a beaucoup d'informations. Il fait allusion à un certain nombre de choses qu'il ne faut pas balayer d'un revers de la main. Par contre, par rapport à la question sécuritaire, je vois qu'ici il est relevé en fait. Parce que vous avez parlé des mouvements insurrectionnels. Ces mouvements insurrectionnels ont existé au Bas-Congo, il y en a en Équateur, il y en a à l'Est.
Résumez-vous, je vous en prie, le temps a été épuisé là.
Oui, alors, pour terminer cette question sécuritaire, c'est que il faut une approche de consensus.
Merci, honorable Sadari.
Pour des questions qui concernent la sécurité.
Honorable Sadari, conclusion.
Conclusion, je vais lire le rapport de cette ONG. Je crois que s'il y a des éléments qui peuvent nous aider à aller de l'avant, on va en profiter. mais les éléments qui ont toujours caractérisé l'opposition, nous allons les balayer comme d'habitude.
Merci honorable, c'est la fin de cette émission. Radio Capi.